Chapitre 6. Gémissante, elle s'était dressée dans les ténèbres. Elle devenait folle d'angoisse quand cette idée reparaissait avec précision. Son aventure avait été d'une banalité désespérante. Elle avait succombé, comme 100 000 autres, à l'inamovible trébuchet de la séduction la plus vulgaire. Elle s'était perdue, simplement, bêtement, avec un faux blas de ministère qui ne lui avait rien promis ni rien donné, pas même le plaisir d'une heure, et dont elle n'avait elle-même rien espéré ni rien attendu. La vérité crucifiante, c'est qu'elle s'était livrée à un belâtre quelconque parce qu'il s'était trouvé sur son chemin, parce qu'il pleuvait, parce qu'elle avait le cœur et les nerfs malades, parce qu'elle était lasse à mourir de l'uniformité de ses tourments, et probablement aussi par curiosité. Elle ne savait plus. C'était devenu tout à fait incompréhensible. Et quelle odieuse platitude en cette intrigue de station d'omnibus et de restaurant à prix fixe. Sa meilleure excuse, peut-être, avait été, comme toujours, hélas, l'illusion facilement procurée à une fille si malheureuse par un homme bien vêtu et dont la politesse paraissait exquise. Mirage de vie supérieure qui, pendant une minute, alla jusqu'à l'éblouissement. La liaison avait duré quelque temps, et par noblesse de cœur, par fierté, pour ne pas être une prostituée, bien qu'il la secourût à peine, elle s'était efforcée consciencieusement d'aimer ce garçon dont elle sentait si bien l'égoïsme et la prétentieuse médiocrité. C'était difficile, mais elle croyait avoir réussi, sans doute par un effet de cette impulsion, plus mystérieuse qu'on ne le suppose, qui ramène si souvent les abandonnées ou les fugitives au premier homme qui les posséda. Mais maintenant, ah, maintenant, surtout, après des années, c'était bien fini. Il ne lui restait qu'un intolérable dégoût pour le misérable amant dont elle aurait accepté l'âme étroite, mais dont l'étonnante lâcheté l'avait saturée de tous les crapauds du mépris et de l'aversion. Le triste roman s'était ainsi dénoué. Chapuis, non encore complètement ruiné, et d'ailleurs indifférent, mais poussé par la vieille qui s'avisa tout à coup de l'improductive contamination de son enfant, vint trouver un jour le jeune homme à son bureau et, d'un air très doux, lui notifia qu'on aurait le regret de compromettre son avancement par un esclandre fabuleux s'il n'offrait pas un dédommagement à la famille respectable au sein de laquelle il avait introduit la honte et le déshonneur. On n'exigeait pas précisément le mariage, parce qu'on avait des vues plus hautes que l'alliance d'un petit employé sans fortune et sans avenir, mais le vieux renard avait apporté du papier timbré. Le suborneur, plein d'inexpérience et d'effroi, souscrivit d'étranges billets payables de mois en mois pour une somme assez fantastique, valeur reçue en marchandises, dont le recouvrement s'opéra d'une façon régulière, jusqu'au jour où les parents du jeune homme intervinrent et menacèrent à leur tour le balancier de désobligeantes poursuites en escroquerie. La honte et le désespoir de Clotilde furent infinis, car Chapuis, espérant vraisemblablement une défaite plus avantageuse de la jolie fille, dont il se croyait l'armateur, avait exigé la rupture immédiate sous forme de lettres insultantes que le Lauzun de la Sandarac avait noblement écrite sous sa dictée. Trahi, vendu, outragé, et goujatement lapidée d'ordures par celui-même à qui elle avait sacrifié son unique fleur, quel châtiment rigoureux pour la folie d'un seul jour. Et sa mère, dont elle voyait la main dans tout cela, son horrible mère, qui avait fait semblant de ne rien savoir aussi longtemps qu'elle avait ignoré l'insignifiance commerciale de ses déplorables amours. Pourquoi fallait-il que la plus diabolique nécessité la contraignît à vivre encore auprès d'elle? Il y eut une scène affreuse où la puante mégère, acculée à l'aveu de ses infamies, imagina de se réfugier en d'effroyables clameurs d'agonie qui firent penser aux voisins que le balancier assommait sa femme. Le drôle, au contraire, menaçait de tuer Clotilde, qui s'en prenait surtout à lui, dans le déchaînement de sa colère, la plus grande peut-être, sinon la première qu'elle eût jamais eue. Puis, ce fut fini. La profonde personnalité de la jeune fille continua de subsister par-dessous les ensablements monotones et les marécages désolés de son apparente vie terrestre, et par-dessous les effrayantes eaux souterraines de son repentir, semblable à ces cryptes miraculeuses qui sont cachées au centre du globe et qu'une seule goutte de lumière ferait autant resplendir que les basiliques des cieux. Elle parut avoir tout oublié. Sa douceur devint plus touchante, surtout lorsqu'elle parlait à sa mère en baissant les yeux pour ne pas la voir, ce qui lui valut de cette digne salope le surnom de fille hypocrite. Seulement, à force de souffrir, sa grande vigueur s'altéra. Les striges de l'anémie dévorèrent ses couleurs charmantes, et elle devint pâle comme l'humilité même. Elle n'eut bientôt plus la force de supporter les fatigues de cet écrasant métier de vendeuse dans un grand bazar, qui avait remplacé l'intoxication quotidienne de la dorure. Enfin, on dut l'emporter à l'hôpital où le chef de service qu'elle intéressait dit un jour sévèrement à Chapuis, venu pour la voir, que cette jeune fille étant malade, et même assez gravement, par suite des chagrins qu'on lui faisait endurer dans sa famille, il lui conseillait à l'avenir de prendre garde pour lui-même aux conséquences redoutables de brutalités nouvelles. Cet avertissement eut l'effet céleste d'épargner un peu plus tard à la convalescente les scènes ou les injures abominables que n'aurait pas manqué de lui attirer sa faiblesse extrême. Et c'est ainsi qu'elle avait pu croupir de longs mois dans le vermineux Taudion. Chapitre 7. Mais maintenant, que devenir? Est-ce que vraiment elle ne pourrait pas échapper à la chose odieuse dont avait parlé ce bandit? Un modèle d'atelier. Était-ce possible? Elle avait pourtant bien promis qu'aucun homme désormais ne la verrait plus. Mais les pauvres ne possèdent même pas leur corps. Et quand ils gisent dans les hôpitaux, après que leur âme désespérée s'est enfuie, leur pitoyable et précieux corps, promis à l'éternelle résurrection. Ô douloureux Christ, on les emporte sans croix ni oraison, loin de votre église et de vos autels, loin de ces beaux vitraux consolants où vos amis sont représentés, pour servir comme des carcasses d'animaux immondes aux profanations inutiles des corbeaux de la science humaine. La loi des malheureux est par trop dure en vérité. C'est donc tout à fait impossible qu'une fille indigente échappe de manière ou d'autre à la prostitution. Car enfin, qu'elle vende son corps, la nudité de son corps, pour ceci ou pour cela, c'est bien toujours la prostitution. Les yeux des hommes sont aussi dévorants que leurs mains impures, et ce que les peintres font passer sur leurs toiles, c'est la pudeur même qu'il a fallu renier pour leur servir de modèle. Oui, certainement, la pudeur même. On leur donne cela aux artistes pour un peu d'argent. On leur vend précisément l'unique chose qui est le juste poids d'une rançon dans la balance où le Créateur équilibre ses nébuleuses. Ne comprend-on pas que cela, c'est plus bas encore que ce qu'on appelle communément la prostitution. Ruisselant de perles ou d'ordures, le vêtement de la femme n'est pas un voile ordinaire. C'est un symbole très mystique de l'impénétrable sagesse où l'amour futur s'est enseveli. L'amour seul a le droit de se dépouiller lui-même et la nudité qu'il n'a point permise est toujours une trahison. Cependant, la dernière des prostituées pourra toujours en appeler à la justice la plus rigoureuse, en alléguant qu'après tout, elle n'a pas dénaturé son essence, et que les saintes images n'ont pas été déplacées par elle, puisqu'elle n'était qu'un simulacre de femme à la dévotion d'un simulacre d'amour. La nature même de l'illusion qu'elle offrit aux hommes peut, en désespoir de cause, arracher à Dieu son pardon. La profession de modèle, au contraire, destitue la femme complètement et l'exile de sa personnalité pour la reléguer dans les limbes de la plus ténébreuse inconscience. Clotilde, assurément, ne raisonnait pas ces choses, mais son âme vive lui en donnait l'intuition très claire. Si cet abandon de sa propre chair pouvait être sans péché, comment avaler le dégoût d'une innocence plus dégradante, lui semblait-il, que le péché même? Que dirait le missionnaire? Que dirait-il ce beau vieillard qui avait si bien vu qu'elle agonisait de la soif de vivre? Le souvenir de cet inconnu la fit pleurer silencieusement dans l'ombre. Hélas, pensait-elle, il aurait grande pitié de son enfant. Il me sauverait sans doute. Mais vit-il encore seulement? Depuis tant d'années, et dans quel endroit du monde peut-il être, vivant ou mort? Elle se prit alors à songer, comme font les malheureux, à tous les sauveurs possibles que peut rencontrer une créature au désespoir, et qui, jamais, au grand jamais, ne sont rencontrés par personne. Elle se souvint d'une image qu'elle avait admirée autrefois dans la boutique du Doreur et qu'elle eût été ravie de posséder. Cette image représentait une scène de mauvais lieu, quelques hommes à figure de malandrin, assis et buvant avec des filles crapuleuses. À droite, l'un des murs de cette caverne avait disparu pour faire place à une vision lumineuse. Le doux Christ galiléen, environné de sa gloire, tel qu'il apparut à Madeleine au jardin de la résurrection, se tenait immobile dans la clarté. Sa face douloureuse exprimant une pitié divine et tendait ses mains pleines de pardon à l'une des femmes, une toute jeune fille qui s'était détachée du groupe et se traînait sur ses genoux en l'implorant avec ferveur. Combien de fois, se souvenant de cette lithographie d'encadreur, avait-elle eu soif de le rencontrer, ce miraculeux ami qu'on ne voit plus dans les villes ni dans les campagnes, et qui parlait familièrement autrefois aux pécheresses bienheureuses de Jérusalem. Car elle ne se jugeait pas meilleure que les plus perdues. Sa faute ayant été sans ivresse, rien n'était capable d'en atténuer l'amertume et l'humiliation. Cette récurrence perpétuelle l'hypnotisait, l'immobilisait, la faisait paraître stupide quelquefois avec ses paniques yeux de Cassandre du repentir fixement ouverts. Elle avait donné irrévocablement, pour toute la durée des éternités, son unique bien, le plus précieux trésor qu'une femme puisse posséder. Cette femme s'appela-t-elle l'impératrice de la Voie lactée? Elle avait donné cela. À qui et pourquoi? À présent, les trois personnes pouvaient faire ce qu'elles voudraient, raturer la création, congédier le temps et l'espace, repétrir le néant, amalgamer tous les infinis. Cela ne changerait absolument rien à ceci, qu'à une certaine minute, elle était vierge, et qu'à la minute suivante, elle ne l'était plus. Impossible de décommander la métamorphose. Lorsque Jésus descendra enfin de sa croix, il pourra la trouver tout de suite la profanée, en suivant la pente facile du calvaire qui mène sûrement au quartier des infidèles. Elle pourra, de son côté, lui baigner et lui parfumer les pieds, comme cette grande Madeleine qui fut appelée l'épouse magnifique. Mais il ne lui sera pas possible, fût-ce avec des tenailles de diamants, d'arracher une seule des épines de son front criblé. Cet époux famélique devra se contenter des restes de l'impur festin, où nul n'aura gardé la robe nuptiale et respiré les lys flétris de ses déloyales amoureuses. « Que puis-je donc offrir maintenant ? » murmurait-elle. « En quoi suis-je préférable à la première venue que les hommes roulent du pied dans leurs ordures ?» Quand j'étais sage, il me semblait que je gardais des agneaux très blancs sur une montagne pleine de parfums et de rossignols. J'avais beau être malheureuse, je sentais qu'il y avait en moi une fontaine de courage pour défendre cette chose précieuse dont j'étais la dépositaire et que le Seigneur désormais ne trouvera plus quand il en aura besoin. Aujourd'hui, ma source est tarie. Ma belle eau limpide est devenue de la boue, et les plus affreuses bêtes y pullulent. Moi qui aurais pu devenir une sainte aussi claire que le jour, et prier avec les anges sur le bord du tapis des cieux, je n'ai même plus le droit d'être aimée d'un honnête homme qui serait assez charitable pour vouloir de moi. » À cet instant, les pensées de la jeune femme se figèrent comme le sang des morts. L'ivrogne rentrait à tâtons, bousculant tout, rôtant le blasphème et l'ordure, et finalement se vautrait, en grognant à la manière d'un porc, à côté de sa venimeuse femelle, qui fit entendre quelques comateux soupirs. Le voisinage de cette brute était pour Clotilde un intolérable supplice. Elle s'étonnait souvent de n'être pas morte de dégoût et de désespoir, depuis tant de mois qu'elle était forcée de le subir. Non seulement il y avait l'horreur de cette promiscuité infamante, avec tout le sale poème des épisodes ou péripéties accessoires, mais un autre souvenir, plus atroce encore et toujours évoqué, l'obsédait comme un cauchemar sans trêve. Un jour, quelques années auparavant, lorsqu'on habitait encore Montsouris, la splendeur de Chapuis n'étant pas éteinte, l'immonde personnage, profitant d'une absence très longue et peut-être concertée de la mère, avait essayé de la violer. Clotilde était à cette époque très innocente, mais très renseignée. La lutte fut tragique et presque mortelle entre cet ivrogne exaspéré et cette fille vigoureuse dont l'indignation décuplait les forces. Ayant réussi à lui faire lâcher prise une seconde en le mordant avec la plus sauvage cruauté, elle eut le temps de bondir sur un fer à repasser et lui en asséna sur la tête un coup si terrible que Chapuis, aux trois quarts assommé, garda le lit pendant près d'un mois. Cette affaire s'arrangea très bien et la vie commune continua. Clotilde était sans ressources pour prendre la fuite et l'imagination du lâche Pandour, non moins vigoureusement frappé que son crâne, suffisait à coup sûr pour le dissuader de toute entreprise nouvelle. Une crainte obscure lui resta même de cette vierge aux yeux si doux, qu'il n'aurait pas cru capable d'une si fougueuse intrépidité. Celle-ci, d'ailleurs, était à 100 lieues de soupçonner sa mère, à qui le malade parut avoir expliqué sa blessure par un accident vulgaire que l'aléa d'une soulographie perpétuelle rendait très plausible. Mais elle eut toujours devant les yeux l'ignoble scène, et l'ébranlement profond qui en résulta ne fut pas l'une des moindres causes de sa propre chute qui survint quelque temps après. « Allons, se dit-elle enfin, j'irai là puisqu'il est impossible de faire autrement. Une honte de plus ou de moins, qu'importe. Je ne pourrai jamais me mépriser plus que maintenant. Et puis, mon travail, ce joli travail, paiera sans doute les tournées de M. Chapuis et les petites douceurs de maman. C'est à considérer cela. Ne pense donc plus à rien et tâche de dormir, pauvre petite chienne perdue que ne réclamera personne. Ta destinée, vois-tu, c'est de souffrir. C'est à peu près cela qu'il m'a dit, le missionnaire. Mon bon vieux missionnaire, qui aurait bien pu m'emporter avec lui dans ces déserts et qui pleure peut-être en me regardant du fond de sa tombe. Chapitre 8. Les pauvres sont exacts. À 11 heures du matin, Clotilde était en haut du faubourg Saint-Honoré et sonnait à la porte de M. Pelopidas Anacharsis Gacoumiol. C'est l'auteur du groupe célèbre intitulé « La victoire du mari », où l'on voit un personnage moderne à figure de chocolatier mélancolique donnant à manger à 12 ou 15 petits faunes manifestement illégitimes. Tel est le genre d'imagination de cet artiste. À la fois peintre, sculpteur, poète, musicien et même critique, l'universel Gacoumiol paraît avoir pris à forfait l'illustration de tous les proverbes et de toutes les métaphores sentencieuses. Il s'enflamme sur des maximes telles que le « castigat ridendo mores » et affiche la prétention d'être puissamment satirique. Les seules moralités de La Fontaine ont défrayé 15 de ses tableaux et lui ont fourni la matière d'une demi-douzaine de bas-reliefs apophtegmatiques. C'est lui, et non pas un autre, qui a inventé le buste milésien, c'est-à-dire la configuration en marbre ou en bronze d'un homme illustre, depuis la pointe des cheveux jusqu'au nombril inclusivement, en ayant soin de couper les bras, ce qui, dans sa pensée, donne à l'effigie la haute allure d'une impassibilité formidable. C'est lui encore qui, dans un journal illustré, publia cette série de caricatures en escalier dont Paris fut désopilé. Cela consistait, on s'en souvient, à remonter du cochon, par exemple, en passant par toutes les bêtes supposées intermédiaires, jusqu'aux faces calipiges d'Ernest Renan ou de Francisque Sarcey, envisagées comme un pinacle de sélection. En poésie, en musique surtout, il est plutôt sentimental et pleure volontiers sur son piano, en chantant des niaiseries d'une voix très belle. Gascon toulousain, et fort en gueule, frotté d'ail et d'esthétique, artiste par la racine et jocrisse par la frondaison, barbu comme un Jupiter pogona, et coiffé dans les ouragans, il affecte habituellement la brutalité sublime d'un Encelade ravagé. Nul ne parvint jamais à détester ce bon garçon, aussi incapable de méchanceté que de modestie, et dont le réel talent, stérilisé par la dissémination perpétuelle de sa fantaisie, ne peut offusquer personne. Il attendrit, d'ailleurs, et désarme complètement les camarades les plus enfractueux ou les plus retors, par la surhumaine cocasserie de quelques-unes de ses conceptions. Au coup de sonnette, il vint ouvrir en personne. « Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore ? » cria-t-il, voyant une femme en cheveux au seuil de son atelier. « C'est toujours la même chose, n'est-ce pas ? Votre mari a toujours son fameux rhumatisme articulaire qu'il a pincé en réparant l'obélisque, et vous avez certainement cassé le biberon de votre petit dernier. Voilà le 14e que je paie depuis un mois. Ah, jour de Dieu, vous n'êtes pas étouffé par l'imagination du côté des ternes. Enfin, entrez tout de même, je vais voir si j'ai de la monnaie. Eh bien, mon gentilhomme, tu peux te vanter d'en avoir de la chance d'être un salaud et de ne jamais donner un sou à personne. On ne t'embête pas. » Cette additionnelle congratulation s'adressait à un troisième personnage d'aspect bizarre qui s'inclina sans dire un seul mot.
« Figure-toi bien, poursuivit Pelopidas, que c'est comme ça toute la journée. Quand j'ai donné 4 sous à un de ces bougres, il ne me lâche plus et m'envoie toute sa famille. Allons bon. Au diable ai-je fourré mon porte-monnaie maintenant ? Mais, milliard de Dieu, fermez donc votre porte là-bas, il ne fait pas déjà trop chaud dans cette lanterne. »
Clotilde, fort ahurie d'un tel accueil, obéit machinalement, puis, appelant tout son courage, dit enfin : « Monsieur, vous vous trompez.
Je ne suis pas une mendiante. Je suis la personne dont on vous a parlé et que vous attendiez ce matin à 11 heures. » Et elle lui tendit sa carte. Pauvre carte unique, découpée pour la circonstance avec des ciseaux dans le coin le moins sale d'une feuille de gros papier jaune et sur laquelle elle avait écrit son nom, Clotilde Maréchal. « Ah, vous êtes le modèle ? Très bien, alors déshabillez-vous. » Et, comme si c'était la chose la plus simple, il reprit aussitôt la conversation interrompue un instant par l'arrivée de cet accessoire. « Pour en revenir à tes blagues sur le grand art, mon petit Zéphirin, nous en reparlerons quand tu auras quelque chose de neuf à me révéler. Jusque-là, tu m'embêtes, et je ne te l'envoie pas dire. Tout ce que tu me dégoises, depuis une heure, me fut enseigné avec beaucoup de soin par de vénérables ganaches, lorsque tu t'étais encore ta nourrice. Je suis pour l'art personnel, moi, quel que soit le nom qu'on lui donne. Je n'appartiens à aucune autre école que la mienne. Et encore, mon ambition, c'est d'être Pélopidas Gacugnol, pas un autre. Un foutu nom, si tu veux, mais il me fut donné par mon brave homme de père, et j'y tiens. Pour ce qui est de ton androgyne, ou de tes enfants des anges, c'est de l'esthétique de pissotière, et il ne m'en faut pas. Les maîtres n'ont pas eu besoin de toutes ces cochonneries pour sculpter ou peindre des merveilles. Et le grand Léonard aurait été dégoûté de son œuvre s'il avait pu prévoir ta sale façon de l'admirer. Tiens, veux-tu que je te dise ? Vous êtes tous des esclaves, les jeunes, avec vos airs de tout inventer, et vous marcheriez très bien à quatre pattes devant le premier venu qui aurait le pouvoir de vous sabouler. Il vous manque d'être des hommes, rien que ça. Je veux bien que le diable m'emporte, si on peut trouver une idée dans votre sacrée littérature de gueusards prétentieux et tarabiscotés. Toi, tu es le malin des malins. Tu as trouvé le troisième sexe, le mode angélique, ni mâle ni femelle, pas même châtré. Joli. On s'embêtait, c'est un filon d'ordure qui va certainement enrichir quelques crapoussins de lettres, à commencer par toi, qui est l'initiateur et le grand prophète. Seulement, vois-tu, ça ne suffit pas pour être un critique, et tu peux te vanter d'avoir écrit de belles âneries sur la peinture. » À cet endroit de son discours que soulignait la plus méridionale gesticulation, les yeux de Pélopidas tombèrent sur Clotilde, exactement pétrifiée, et paraissant regarder avec stupeur la flottante crinière de ce personnage volubile qui lui avait dit de se déshabiller. Déjà entraîné, il éclata. « Ah, ça! Qu'est-ce que vous foutez là, vous, à me regarder avec des yeux comme des portes cochères? Il s'agit de vous mettre à poil tout de suite. J'ai à travailler. Tenez, là, là, derrière ce paravent, et que ça ne traîne pas, s'il vous plaît. » La pauvre fille, au comble de la terreur, disparut immédiatement. Et toi, bambino des anges, petit de lumière de mon cœur, tu vas me faire le plaisir d'aller voir dehors si j'y suis. Ta conversation est aussi ravissante que nutritive, mais j'en ai assez pour quelque temps. Tu viendras me voir quand je n'aurai rien à faire. Là, c'est bien, prends ton chapeau et bonsoir à tes poules. Je ne te reconduis pas. » Zéphirin de Lumière, le fameux hiérophante romancier, promu récemment à d'obscures dignités dans les conciles interlopes de l'occultisme, prit, en effet, son chapeau, et, la main sur le bouton de cuivre de la serrure, d'une de ces voix mortes au monde qui ont toujours l'air de sortir du fond d'une bouteille, laissa tomber, en guise d'adieu, ces quelques paroles adamantines. « Au revoir, donc, ou jamais plus comme il vous plaira, peintre malgracieux. Il me serait trop facile de vous punir en vous effaçant de ma mémoire. Mais vous flottez encore dans la mniosse de l'irresponsable sexualité. Vous en êtes, pour combien de temps, aux hésitations embryogéniques du devenir, et vous croupissez dans l'insoupçon de la norme lumineuse où se manifeste le septenaire. C'est pourquoi vous œuvrez inférieurement dans la ténèbre du viril terrestre conculqué par les égrégores. et c'est aussi pourquoi je vous pardonne en vous bénissant. Vous finirez par comprendre un jour. » Ainsi posé, le devisant mystagogue était bien la plus exorbitante et supercoquencieuse figure qu'on pût voir, avec sa tignasse graisseuse de sorcier cafre ou de talapoin, sa barbe en mitre d'astrologue réticent et ses yeux de phoque dilatés par de coutumières prudences à la base d'un nez jaillissant et obéliscal, conditionné, semblait-il, pour subodorer les calottes les plus lointaines. Affublé d'un veston de velours violet, gileté d'un sac de toile brodé d'argent, drapé d'un burnous noir en poil de chameau filamenté de fil d'or, et botté de daim, mais probablement squalide sous les fourrures et le paillon, il apparaissait comme un abracadabran écuyer de quelque Pologne fantastique. Tout à coup, un éclat de rire immense, formidable, et qui semblait devoir tout fracasser, fit explosion. Le caricaturiste, qui ne sommeille jamais longtemps chez cet excellent Gacoumiol, venait d'être atteint en pleine poitrine par le ridicule tout-puissant que dégage, 24 heures par jour, la personnalité de Delumière. Il se laissa tomber sur un divan et se tordit dans les convulsions et les pâmoisons de l'allégresse la plus délirante. Quand l'accès eut pris fin, le grotesque, un moment cloué par la surprise, était parti, dédaigneux et blême. « Ah, l'animal !» exhala enfin le rieur, après un bruyant soupir de satisfaction, et se parlant à lui-même, suivant sa coutume, « Il me fera mourir un de ces jours. J'ai beau le soupçonner des plus sales manigances, c'est à peine si j'ai le courage de le flanquer à la porte. Vraiment, c'est à payer sa place. Le vilain bougre m'a-t-il fait rire avec ses bottes à la Franconi et sa gueule de marlou circassien, vue dans la pénombre? Le père que j'ai connu pion à Toulouse n'était pourtant pas si drôle. Il passait pour un honnête marchand de soupe légèrement toqué de prophéties royalistes et assez mal vu du clergé qu'il prétendait éclairer. Mais cela ne dépassait pas la mesure d'un bon ridicule de province. Il faut croire que son fils tient plutôt de l'aïeul gargotière, la mère des compagnons, comme on disait, laquelle ne paraissait pas descendue précisément des Elohim, ainsi qu'il nomme ses ancêtres d'avant le déluge. Enfin, ne pensons plus à ce polisson qui m'a fait perdre encore une heure, ce matin, et voyons un peu ce modèle. Dites donc, mademoiselle, vous seriez bien aimable de presser un peu le déshabillage. » À ce moment, quelque chose passa qui n'était ni un bruit, ni un souffle, ni une lueur, ni rien de ce qui peut ressembler à un phénomène quelconque. Peut-être même ne passa-t-il absolument rien. Mais Gacoumiol eut un frisson, et vivement impressionné, sans savoir pourquoi, demeura une minute silencieux, la bouche entr'ouverte, les yeux fixés sur le paravent. « Eh bien, qu'est-ce que j'ai donc ? » murmura-t-il. « Est-ce que cet idiot serait contagieux par hasard ?» Il s'approcha et, prêtant l'oreille, perçut comme un faible râle, très étouffé, très lointain, semblable à celui de ces apocryphes défunts que le poète des épouvantes entendait agoniser sous la terre. Écartant brusquement le léger meuble, il vit alors la malheureuse, agenouillée, les épaules nues et le visage enfui dans un misérable fichu de laine bleue, la seule pièce de son vêtement qu'elle eût enlevée. Évidemment, le cœur lui avait manqué tout de suite. Elle s'était affaissée de désespoir, et depuis un quart d'heure environ, elle étouffait de ses deux mains d'horribles sanglots qui la secouaient tout entière. Gacoumiol, surpris et apitoyé, fut aussitôt saisi de cette pensée que son rire de tout à l'heure avait été l'accompagnement de ses larmes extraordinaires, et, se penchant avec émotion sur la douloureuse, « Mon enfant, dit-il, pourquoi pleurez-vous ?
Chapitre 9. Ces simples mots eurent l'effet d'une percussion magnétique. D'un mouvement d'animal rapide, Clotilde releva la tête et regarda follement cet homme qui venait de lui faire entendre la même question qu'en un pareil déconfort lui avait autrefois adressée le missionnaire. Dans le trouble de son étonnement, elle avait cru reconnaître la voix même de ce cher vieillard qui représentait pour elle l'unique rafraîchissement terrestre qui lui eût été accordé. Du même coup, elle se sentit transportée d'espoir et son visage exprima ce sentiment. Tout son beau visage ruisselant de pleurs que le peintre admirait silencieusement. L'ayant à peine regardée lorsqu'elle était survenue au milieu d'une oiseuse discussion qui l'exaspérait, il la trouvait maintenant très touchante et presque sublime dans le décor de son affliction. L'indifférence eût été d'ailleurs assez difficile. Il sortait de cette physionomie comme une main de douceur qui tirait l'âme de ses enveloppes et la colloquait dans une prison de cristal. Ce n'était pas la traditionnelle pécheresse de l'Évangile, dont le sacrilège paganisme de la Renaissance a tant abusé. Ce n'était pas non plus, cependant, la sœur de ses frêles bienheureuses qui se consume depuis 2000 ans dans l'interminable procession des saints, comme les flambeaux intangibles d'une chandeleur éternelle. Il n'y avait pas, en cette fille prosternée, beaucoup plus qu'une pauvre petite chair amoureuse, pétrie par les séraphins de la misère et parée seulement des plus pâles myosotis de la douleur. Holocauste résigné de la vie banale que n'éclairait aucun nimbe et que n'avait pas transpercé la foudre des tourments divins. Mais la magnificence paradoxale de sa chevelure en désordre, le sombre velours de ses adorables yeux d'antilope où naufrageait la lumière, et ce visage de chrétienne dévorée que la chaude pluie des larmes semblait avoir essuyé de sa pâleur, tout cela donnait l'impression du rêve. Gacugnol en était d'autant plus frappé que, depuis quelque temps, il se taraudait l'encéphale pour arriver à construire une sainte Philomène menacée par plusieurs lions qu'il comptait offrir à un bonhomme d'archiprêtre toulousain qui lui avait fait avoir des commandes. Toutefois, en cet instant, l'admiration sans calcul et la pitié seule agissaient immédiatement sur lui. Voyant Clotilde suffoquée, incapable de répondre, il lui tendit les deux mains pour l'aider à se relever et, lui parlant avec une sorte de tendresse, « Couvrez vos épaules, dit-il, ma petite amie, et venez vous asseoir près du feu. Nous allons causer bien tranquillement comme de vieux camarades. Ne me parlez pas encore, épongez seulement vos yeux une bonne fois, je vous prie. J'ai beau être une espèce de brute, je ne peux pas voir pleurer, c'est plus fort que moi. Voyons, ça vous fait peur de poser pour l'ensemble, n'est-ce pas ? Je comprends. Et si je vous avais mieux regardé quand vous êtes venu, je vous aurais parlé autrement. Il ne faut pas m'en vouloir, c'est le métier qui veut ça. Si vous saviez les traînées qui viennent ici pour poser et pour tout ce qu'on veut... « Ah, elles ne pleurent pas, celles-là, pour ôter leur chemise, je vous en réponds, et ce n'est pas toujours très beau ni très ragoûtant, sans compter qu'on est embêté d'une autre manière. Vous m'avez vu tout à l'heure avec un fier imbécile. Que voulez-vous, on finit par prendre des habitudes de cheval à force de cultiver tous ces chameaux, et quelquefois on tombe assez mal. Enfin, vous n'êtes plus fâché, dites. » Ah, certes, non, elle n'était plus fâchée, la pauvre fille, si elle avait pu l'être. Elle sentait si bien la pitié de ce brave homme qui s'accusait lui-même pour la rassurer. Mais il ne lui laissa pas le temps d'exprimer sa reconnaissance. Et puis, s'il faut tout vous dire, vous étiez assez mal recommandé par l'individu qui est venu hier. Ce n'est pas votre père, n'est-ce pas ? Mon père ? Cria-t-elle en bondissant.
Lui, le misérable! Est-ce qu'il a osé vous le dire?
Non, calmez-vous. Il ne me l'a pas dit. Mais il ne m'a pas dit non plus le contraire.
Oui, j'y suis. C'est le consolateur de madame votre mère.
Ah, ma pauvre enfant! Il était très saoul, monsieur. Et sans la lettre de votre propriétaire, qui est mon vieil ami, je ne l'aurais certes pas reçue.
Le drôle parlait de vous comme d'une marchandise.
J'ai même cru démêler d'obscures intentions qui ne m'ont pas paru fleurer la plus fine bergamote.
Il a fini par essayer de me soutirer de l'argent, et je m'admire de ne l'avoir pas jeté plus rudement à la porte.
Vous comprenez, ma chère petite, que ce préambule me disposait mal à vous octroyer de superlatives révérences.
Mais n'en parlons plus. Voici ce que je vous propose. Voulez-vous poser pour la tête seulement? Vous avez une figure de sainte que je cherche depuis des mois. Je vous offre 3 francs par heure. Ça vous va-t-il?
Remarquez bien que c'est un service que je vous demande.
Clotilde croyait sortir des cavernes de l'âge de pierre. Sans l'honnête et bonasse physionomie de cet étonnant gacougnol, qu'on prendrait quelquefois pour le marguillier de Notre-Dame des Paternités, elle n'aurait pu s'empêcher de craindre une minute quelque hideuse mystification.
« Monsieur, dit-elle enfin, je suis une très pauvre fille et je ne sais pas m'exprimer convenablement. Si vous pouviez voir dans mon cœur, si vous connaissiez ma vie surtout, vous comprendriez ce que j'éprouve. J'avais si grand peur de vous. Je suis venu comme les damnés vont dans l'enfer. Pardonnez-moi de vous avoir ennuyé de mon pleurnichage, et si vous pouvez vous contenter de ma figure triste, je suis bien, bien heureuse. Pensez donc, jamais on ne m'adresse une parole de bonté. »
Et tout de suite, sans que Gacougnol pût le prévoir ni l'empêcher, elle lui prit la main et la baisa. Ce mouvement fut si vrai, si gracieux, si touchant, que le digne Pélopidas, complètement désorienté, craignit à son tour de laisser voir un attendrissement peu compatible avec la sérénité d'un dominateur de lui-même, et brusquement retira sa lourde patte.
« Allons, allons, c'est bien, pas de sentiments, s'il vous plaît, mademoiselle, et au travail. Venez par ici, en pleine lumière, que j'étudie votre pose. Levez les yeux et fixez avec intention cette solive qui est là, au-dessus de votre tête. Oui, ce n'est pas mal, c'est même très bien. Mais quel pensif, mes enfants, quelle bondieuserie déchaînée! Il y a peut-être 500 000 paires d'yeux comme ça, en peinture, qui contemplent le séjour des élus. Que diable pourrais-je bien lui faire regarder à Sainte Philomène? Le truc des visions célestes est insoutenable. C'est tout de même dur à peindre, un sujet pareil, quand on n'a jamais été le spectateur d'aucun martyr. Lui ferais-je regarder la multitude en ayant l'air de demander grâce?
Stupide! D'ailleurs, il n'y a pas moyen, puisqu'on veut que tous les chrétiens livrés aux bêtes aient ardemment désiré de leur servir de pâture. Il est vrai qu'en la supposant incapable de crainte, j'aurais encore la ressource de lui faire exhorter le populo.
Ce n'est pas non plus très inédit.
Sans compter que les personnages qui font des discours dans les tableaux ne sont pas précisément irrésistibles.
Alors quoi? Pas moyen d'échapper aux yeux vers le ciel?
Évidemment, c'est encore ce qu'il y a de plus propre à considérer.
Et puis après?
Elle est debout, c'est entendu. On ne leur apportait pas de fauteuil.
Sans doute, mais qu'est-ce que je vais faire des bras?
Les deux bras?
Oh, juste juge, impossible de les couper. On me demanderait si c'est le martyr de la Vénus de Milo.
Liés? Croisés? Étendus en croix?
Levez au ciel.
Oh, toujours le ciel. Ah, zut! Dites-moi, mon enfant, quel est votre nom déjà?
Clotilde, monsieur.
Eh bien, mademoiselle Clotilde, ou Clotilde tout court, si vous le permettez, vous allez peut-être me donner une idée. J'ai à peindre une petite martyre qui va être mangée par les lions. Mettez-vous à sa place. Que feriez-vous si vous étiez exactement à sa place? Faites bien attention qu'il s'agit d'une vraie sainte qui est déjà aussi dévorée que possible par le désir d'entrer dans le paradis, avec une belle palme, et qui n'a pas peur du tout de ses animaux. Encore une fois, que feriez-vous en attendant le premier coup de griffe? Clotilde put à peine s'empêcher de sourire en songeant à sa mère dont le célèbre martyr avait saturé son enfance. À son propre insu, l'horreur perpétuelle de ce praticable d'hypocrisie, déployée au fond de toutes les scènes de sa vie, avait mis en elle une convoitise extrême, un besoin famélique de simplicité et de vérité. Sa naïve réponse ne se fit donc pas attendre. « Ma foi, monsieur Gagougnol, je n'ai jamais pensé à rien de semblable. Même quand j'étais meilleur que je ne suis aujourd'hui, je n'ai jamais cru que Dieu pourrait m'appeler à lui rendre gloire de cette manière. Cependant, la chose que vous me demandez me paraît bien simple. Si j'étais une sainte, comme vous dites, une de ces filles généreuses qui ont aimé leur sauveur plus que tout au monde, et qu'il me fallut mourir sous la dent des bêtes, je crois malgré tout que j'aurais très peur. Seulement, étant sûr d'entrer aussitôt après dans la gloire de mon bien-aimé, je penserai que ce n'est pas bien difficile ni bien long de me donner la mort, et je prierai les lions, au nom de Jésus, de ne pas me faire trop longtemps souffrir. Je suppose que ces animaux féroces me comprendraient, car je leur parlerai avec une grande foi. Ne le croyez-vous pas? La joie de Pélopidas fut extrême et se manifesta spontanément par des cris et des gambades. « Ma petite Clotilde, beugla-t-il, vous êtes simplement ravissante et je vous adore. Moi, je suis un idiot, vous m'entendez bien, un triple idiot. Jamais je n'aurais trouvé ça. Grâce à vous, je vais pouvoir faire quelque chose de propre. Voyez-vous, mon petit corbeau noir, nous sommes si crétins dans l'huile que nous n'arrivons jamais à nous mettre au vrai point de vue. Nous ne savons pas être simples comme il faudrait, parce que nous voulons être spirituels et faire entrer nos idées de dessous dans la tirelire du bon Dieu et porter nos têtes de cochon comme des saints sacrements de bêtises à 40 pas devant nous dans les processions des imbéciles. Je dis ça pour les plus malins, autant que pour moi-même. Votre idée me transporte, et tenez, je m'en vais la fixer tout de suite. » À ces mots, il se précipita sur un carton, s'empara fougueusement d'une vaste feuille de papier qu'il boucla sur un châssis et se mit à dessiner un grand trait sans interrompre le monologue. « Vous allez voir, restez là, ma bonne fille, je n'ai pas besoin de la pause. Je vais tâcher d'abord de bâtir un peu mon affaire. Nous allons leur parler à ces lions, ne craignez rien. Naturellement, nous sommes en plein cirque romain, de ce côté-ci la canaille dans le lointain. On la verra si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Ici, vous, c'est-à-dire Philomène, avec le bon Dieu qu'on ne voit pas, mais dont il faudra faire sentir la présence, si je ne suis pas une bourrique. Au fait, combien nous faut-il de lions? Si j'en mettais 40, une académie de lions? Non. Décidément, ce serait trop spirituel. Contentons-nous de 4. Ça fera penser aux vertus cardinales, justice, prudence, tempérance et force. Entre parenthèses, je vous conseillerais de vous adresser particulièrement à la dernière quand vous leur ferez votre petit discours. Je me défierai des autres. À propos de discours, il y a bien toujours l'inconvénient de faire parler une figure peinte, avec cette diablesse de bouche ouverte pour le silence éternel. Ce qui fera le désespoir des nobles cœurs jusqu'à la consommation des siècles. Tant pis, je vous fermerai la bouche. On supposera naturellement que la conversation est finie. Et d'ailleurs, les lions n'exigent pas qu'on leur parle comme à des hommes. C'est surtout avec les yeux qu'ils écoutent, ce dont la brute humaine est presque toujours incapable. Nous en savons quelque chose, bien, nous les voulons énormes, n'est-ce pas? Les lions de Daniel, Par Victor Hugo. Non? Vous ne connaissez pas?
Des lions qui causent entre eux, mon enfant. Il y en a même un qui parle comme un âne.
Ha! N'importe, ils ont de l'allure. Tenez, voyez-vous celui-là? Il a l'air assez bon garçon.
Si vous lui passiez la main sur la crinière, ça le flatterait peut-être.
Essayons.
Tiens, tiens! Ce petit geste étonne sans doute nos vestales.
Au fond, je m'en fiche de ces prêtresses.
Oui, les dames du vernissage, ces vestales de mes petits boyaux. Si elles allaient trouver ça gentil maintenant.
Ah, diable! Non, par exemple, nous tomberions dans la crucherie sentimentale.
Cherchons autre chose.
Soudainement, il se dressa, les cheveux épars, en secouant tout l'Olympe de ses pensées.
« Mais, sacrebleu ! » s'écria-t-il, « je n'ai jamais fait de lion, moi. Je ne les ai pas du tout dans l'œil, ces fauves. Regardez-moi celui-là qui nous tourne le dos au premier plan. On le prendrait pour une vache, les yeux fermés.
Il faudra que j'aille les étudier au jardin des plantes.
Une idée. Si j'y allais avec vous aujourd'hui même,
j'aime les choses qui se font tout de suite.
Il est à peine midi. C'est bien décidé, n'est-ce pas? Vous m'accompagnez.
Alors, partons. Chapitre 10. 5 minutes plus tard, on était dans la rue et Gargouniol ailait un fiacre. « Au bon bazar ! » cria-t-il, et vivement. Puis, ayant fait monter Clotilde, il se laissa tomber à côté d'elle et continua de parler avec abondance pendant que roulait la voiture. « Avant tout, ma chère enfant, vous allez me promettre de me laisser faire tranquillement ce qui me plaira. Je suis un animal qu'il ne faut pas contrarier. Vous êtes venu chez moi pour vous mettre à mes ordres, je suppose. Par conséquent, vous devez m'obéir bien gentiment. Vous comprenez que je ne peux pas vous emmener dans ce costume. » Nous allons donc passer par cette halle qui est sur notre chemin et vous ferez un peu de toilette. Oh, soyez tranquille, ce n'est pas un cadeau. Je n'ai pas le droit de vous en faire. C'est tout simplement un petit à-compte sur nos séances. D'abord, vous savez, moi je n'aime pas les pauvres. Je ne peux pas les sentir. J'ai l'inspiration trop décorative et je ne pourrais rien faire avec un modèle de tête qui ne serait pas vêtu convenablement. Puis, nous déjeunerons quelque part. Je crève de faim, et vous aussi peut-être. Nous tâcherons de ne pas nous embêter.
Ah, par exemple, vous seriez aimable de ne pas vous habiller pendant 2 heures.
Je suis sorti pour voir des animaux distingués, et je voudrais bien ne pas arriver trop tard. J'ai besoin d'une masse de croquis.
Clotilde eût été fort embarrassée s'il avait fallu répondre. Gargouniol débobinait sa palabre la plus active et se parlait surtout à lui-même. La malheureuse était d'ailleurs peu capable de former une idée quelconque. Elle se croyait en plein rêve et n'avait pas trouvé un seul mot depuis que ce diable d'homme s'emparait, en claironnant comme un chef barbare, de sa flexible volonté. Naïvement, elle obéissait, suivant l'instinct des êtres profonds. Son âme supérieure lui disait d'accueillir cette aubaine incroyable avec la même douceur qu'elle eût accepté les avanies. Semblable à tous les souffrants qui croient surprendre un sourire à la bouche de bronze de leur destin, elle s'abandonnait délicieusement à l'illusion d'avoir obtenu sa grâce. Et puis, cette pensée qu'elle allait enfin être habillée la suffoquait, l'étranglait, lui serrait le cœur. Sortir une bonne fois de ces affreuses guenilles que les mendiantes auraient méprisées. Ne plus sentir sur elle cette robe infâme qui la salissait, qui la flétrissait, dont le voisinage aurait fait mourir les fleurs. Robe de tristesse et d'ignominie que son misérable amant lui avait donnée autrefois et qu'elle portait uniquement parce qu'il n'avait jamais été possible de la remplacer. Oh, cette robe d'un rouge vomi de mastroquet en déconfiture, délavée par les pluies de 20 saisons, mangée par tous les soleils, calcinée par toutes les fanges, effiloquée jusqu'à l'extinction du tissu
et ravaudée, semblait-il, par la couturière des balafres ou des autopsies. En être débarrassé, délivré, ne plus la voir, la jeter en fuyant dans quelque ruisseau où les ramasseurs d'ordures la dédaigneraient. Était-ce possible qu'il y eût des hommes si généreux? Certes, oui, qu'elle allait poser de bon cœur, tant qu'on voudrait, et ce ne serait pas sa faute à elle si cet artiste ne faisait pas un chef-d'œuvre, car elle poserait comme personne, assurément, n'avait jamais pu poser. Elle serait de pierre sous son regard. Oui, sans doute, mais les bottines, il lui en faudrait aussi, car elle en était à marcher dans des chaussons. Et du linge, donc, comment s'en passer puisqu'elle était complètement nue sous ses loques? Et un corset, et un châle, et un chapeau, tout cela est nécessaire à une femme pour être vêtue convenablement, comme il avait dit. Quelle dépense! Mais il avait de l'argent, pour sûr, beaucoup d'argent, et il ne voudrait pas faire les choses à moitié. Mon Dieu! Dire pourtant que je serais comme cela tout à l'heure, pensait-elle en regardant les petites bourgeoises qui trottaient dans la rue du Bac. Je crois que je vais devenir folle. Il lui semblait que, pour rien au monde, elle n'aurait consenti à parler, de peur de laisser échapper quelque chose de sa joie. Gacougnol, désespérant d'obtenir l'attention de sa compagne, avait cessé de monologuer à haute voix. La main dans sa barbe copieuse, il la considérait en souriant. « Pauvre créature, se disait-il, je suis Dieu pour elle en ce moment, Dieu le Père. Si le bonheur avait des propriétés lumineuses, notre sapin serait le char du prophète Élie, car elle transsude la jubilation. Faut-il qu'elle en ait eu de la misère, celle-là, pour qu'il soit si facile de lui procurer l'extase? Je savais bien, moi, que j'allais faire sortir la femme de ma petite sainte de tantôt. Ce miracle-là va me coûter dans les 5 ou 6 louis, tout au plus. Il les vaut, ma foi. C'est drôle tout de même, la puissance de l'argent. Cependant, mon vieux, ne t'emballe pas trop sur cette idée. Évidemment, ma pauvresse n'est pas la première venue. C'est une chrysalide joyeuse de se transformer. Où donc est le mal ? Elle obéit à sa nature. Eh bien, après, pourquoi sa figure mentirait-elle? Jamais une farceuse, même en espérance, ne pourrait se réjouir avec un pareil abandon. Elle ne manquerait pas de me faire sentir que ça lui est dû, et m'offrirait, pour me gratifier de mon zèle, une très belle gueule en mastic où sa dignité serait empreinte. L'enfantillage de cette grande fille me ravit au contraire. Et c'est bien possible, après tout, qu'elle ait un cœur adorable. Plus une femme est sainte, me disait une fois Marchenoir, et plus elle est femme. Il doit avoir raison, comme toujours. Celle-là n'est peut-être pas tout à fait une sainte, et certainement elle n'est pas neuve. Elle se sera fait prendre et lâcher salement par quelque capétien de la pommade ou quelque fugace trouvère du petit négoce. Éternelle histoire de ces lamentables toquées. Mais il se peut que le colimaçon ait glissé sur elle sans laisser la nacre malpropre de son souvenir. D'ailleurs, je m'amuserai à la faire parler en déjeunant, et je verrai la couleur de ses pensées. Comme il en était là de ses propres réflexions, la voiture s'arrêta devant la porte monumentale du temple de notre vraie foi. « Ah, mon enfant, reprit-il aussitôt d'une voix très distincte, nous sommes arrivés. Descendez la première et dépêchons-nous, s'il vous plaît. »